Tout le monde, donc, peut-il être sauvé? Et quelle est la limite de cela? Et y a-t-il, d'ailleurs, une limite? La mode actuelle est à un universalisme généreux et sympathique. Je pense que c'est ce que croit la majorité des chrétiens quand on les interroge sur la question. Et l'idée globale qui traîne, aussi bien chez les paroissiens que chez les prédicateurs, c'est que finalement, tout le monde sera sauvé. Nous irons tous au paradis, et finalement, ça nous arrange. Et j'ai même une fois entendu un évêque, qui normalement est censé défendre la bonne foi catholique, qui croit dans l'enfer et dans le paradis, et un journaliste l'interrogeant lui demandait « Mais Monseigneur, croyez-vous encore à l'enfer ?» Comme si l'idée que quelqu'un puisse ne pas être sauvé était une idée moyenâgeuse, et cet évêque trouva une sortie de secours astucieuse et dit « Oui, je crois dans l'enfer, mais je crois que l'enfer est vide. » Donc c'est sympathique et généreux, vous disais-je, c'est une bonne nouvelle, tout le monde est sauvé, donc nous aussi, moi aussi, et j'en suis rassuré. Mais néanmoins, cette notion ne résiste pas au passage aux limites. Et c'est toujours très intéressant de regarder ce qui se passe aux limites. Ça, c'est un vieux reste de mes études scientifiques. On va toujours voir en mathématiques ce qui se passe aux limites, et une théorie doit résister à cela. Et les limites, elles tiennent essentiellement en deux noms, aujourd'hui, que l'on citerait. C'est, pour les théologiens, le problème de Judas. Judas peut-il être sauvé? Et pour ceux qui sont moins théologiens et plus intéressés par l'histoire de notre monde moderne, c'est le cas bien compliqué d'Hitler. Ce cas est une vraie question, parce que, là encore, même les plus généreux et les plus universalistes butent sur ce cas et ne peuvent pas admettre que Hitler soit sauvé et qu'il se retrouve au paradis avec Mère Teresa et l'abbé Pierre. Il y a là quelque chose d'absolument incongru et de totalement insupportable. Mais si Hitler n'est pas sauvé, on met le doigt dans un engrenage extrêmement compliqué, car alors, qui peut être sauvé et quel est le critère par lequel on pourra être sauvé? Le premier point important, c'est d'abord de remarquer que dans la Bible, il n'y a pas d'universalisme. Même l'Évangile et même les propos les plus généreux de Jésus ne laissent pas croire que tout le monde pourrait être sauvé de la même manière. Il y a, au contraire, dans l'Évangile, de très nombreux passages que nous ne lisons pas trop, il faut bien le dire, qui parlent de la géhenne, qui disent que les mauvaises herbes seront coupées et jetées dans le feu qui ne s'éteint point, et là, dit Jésus, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Autrement dit, dans l'Évangile, même dans les propos que l'on nous rapporte du Christ, il y a de nombreux passages pour expliquer que tout n'est pas sauvé, que tout le monde n'est pas sauvé, et pour montrer comment se passe cette espèce de choix entre ce qui est sauvé et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est le critère. Quel est-il ? Le plus évident qui vient à l'esprit de l'humain serait de penser que ce seraient les œuvres. Ce serait bien commode, en effet, on sauve ceux qui font du bien et on perd ceux qui font du mal. C'est assez tentant, et ça a été d'ailleurs globalement la théologie juive qui dit qu'il y a un jugement de Dieu à partir d'un critère qui est la loi. Donc les juifs sont jugés selon la loi juive et les païens selon la loi, ou plutôt les sept lois de Noé. Et par conséquent, Dieu ensuite rétribue en fonction des bonnes ou des mauvaises œuvres. Néanmoins, cette théologie dite des œuvres, je crois, n'est pas évangélique. Jésus n'a pas cessé à ce sujet de brouiller les cartes. Il a accueilli des prostituées. Il a dit aux pharisiens, qui pourtant étaient les champions des bonnes œuvres, « Vous savez, beaucoup de prostituées et de pécheurs vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Jésus a mélangé les choses à un tel point qu'on ne s'y retrouve plus. Il annonce aux larrons crucifié avec lui sur la croix, responsable de meurtre, de sédition, dit-il, il lui dit « Toi, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais alors, si le larron sur la croix est sauvé, c'est à désespérer de vouloir faire le bien tout au cours de sa vie. S'il suffit d'une parole généreuse, une seconde avant sa mort pour tout effacer, alors à quoi sert-il de passer sa vie à faire le bien ? Et donc, le bon larron laisse penser que finalement, l'important, ce serait plutôt ce qui se passe au moment de la mort. Mais même là, c'est discutable. Et la grande question des théologiens, c'est si Judas s'était repenti au dernier moment, aurait-il pu être sauvé ? Et après tout, Hitler également, si au moment, juste avant de se suicider, il avait regretté tout ce qu'il avait fait, aurait-il pu être sauvé ? La question n'est pas simple, et même les propos de l'Évangile laissent penser que Judas, de toute manière, n'avait aucune chance. Quand il parle de fils de l'homme, Jésus dit « Malheur à celui par qui le fils de l'homme est livré, il eût mieux valu que celui-ci ne fût pas né. Il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né », ce qui laisse supposer des choses terribles. Donc, autrement dit, Jésus a brouillé les cartes. Il a dit que beaucoup des premiers seront des derniers, que les péagers et les pécheurs précéderaient les champions des bonnes œuvres. Et donc tout cela est bien complexe. Alors cela introduit un autre critère qui est celui de la grâce. La grâce, c'est de dire que nous ne sommes pas sauvés seulement par les œuvres, mais que Dieu peut avoir d'autres critères pour nous sauver de son propre chef, et qu'il peut le faire même à l'égard de celui qui ne le mérite pas. Ça, c'est évangélique. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sauvons par nos œuvres, mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais alors me demanderez-vous quel est le critère pour recevoir la grâce ? Là aussi, c'est bien complexe. Calvin disait « il n'y a aucun critère, c'est le bon vouloir de Dieu et ça le regarde ». Donc Dieu choisit de donner sa grâce à certains et de ne pas la donner à d'autres, c'est son choix et vous n'y pouvez rien. Et cela n'a rien à voir avec votre vie, c'est simplement le choix de Dieu. C'est ce que l'on a appelé la prédestination. Cette idée est intéressante et nous y reviendrons. Néanmoins, aujourd'hui, elle choque beaucoup nos contemporains. L'idée de cet arbitraire de Dieu qui dirait à l'un ou à l'autre « tu es sauvé ou tu es perdu » sans que chacun n'ait rien à y faire, alors dans ce cas, pourquoi la prédestination ne sauverait pas un infâme et ne laisserait pas se perdre quelqu'un de merveilleux ? On ne comprend pas. Dans nos églises traditionnelles, dans les églises d'une piété plutôt évangélique, ce que l'on affirme, c'est que le critère, c'est la grâce, certes, mais conditionnée par la foi, c'est-à-dire en particulier la foi en Jésus-Christ. Donc serait sauvé quiconque a la foi en Jésus-Christ. C'est déjà plus commode, parce que cela dirait une chose que je crois vraie, c'est que le salut est immérité, mais qu'il n'est pas inconditionnel. Certes, nous ne serions pas dans le salut par les œuvres, donc ce n'est pas par mon mérite que je me sauve. Certainement, c'est bien la grâce de Dieu qui me sauve, mais néanmoins, cette grâce n'est pas sans condition. Et on a prêché longtemps dans nos églises que la condition dans laquelle la grâce est effective, c'est la foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, cette théologie me gêne, pour tout vous dire, parce que je pense à tous ceux qui n'ont pas été élevés dans le christianisme, dans des peuplades reculées, je ne sais où, enfin, qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Ceux-là sont-ils nécessairement en train de pourrir dans des enfers effroyables ? Et j'ai beaucoup de mal quand je dis les paroles de grâce à partir de la liturgie réformée, à trouver des paroles de grâce qui ne conditionnent pas la grâce par la foi en Jésus-Christ. C'est très difficile. Même dans l'évangile de Jean, sans cesse, Jean fait dire à Jésus « Celui qui croit en moi ne mourra pas, et celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, qu'en est-il ? » Et sans arrêt, on a cela. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, quiconque met sa foi dans le Fils de l'homme sera sauvé, etc. Et donc, il n'est pas facile d'échapper à ce conditionnement de la grâce. Alors, est-ce vraiment la foi en Jésus-Christ qui nous sauve ? Je vous l'ai dit, j'ai une répulsion à cela, et comme tout bon théologien, je trouve un prétexte dans l'Écriture elle-même pour justifier ma théologie qui n'est peut-être pas orthodoxe. Cette idée, c'est dans Matthieu 25, ce qu'on appelle le jugement des nations, à la fin de l'évangile de Matthieu, quand on nous dit que le Fils de l'homme vient séparer les bons des méchants, et il dit « Venez à moi, vous qui êtes les élus de mon Père », et les méchants, il les envoie en enfer. Or, ceux qui sont sauvés disent « Mais pourquoi nous sommes sauvés, nous ? On ne te connaît pas. » Voilà, on ne te connaît pas. Et Jésus dit « Chaque fois que vous avez donné à manger au plus petit de mes frères que vous avez faim, c'est comme si vous l'aviez fait à moi et vous êtes sauvés. » Donc ce passage de Matthieu 25 déconnecte complètement la question du salut par la foi en Jésus-Christ pour dire que la chose essentielle, c'est la manière avec laquelle on vit dans ce monde et la bonté que l'on a mis en œuvre. Donc l'important, c'est finalement d'être généreux, de donner à boire à celui qui a soif, de visiter celui qui est en prison et d'être bon avec le plus démuni. Et c'est ça, être sauvé. Et donc ce chapitre de Matthieu va dans ce sens et ne parle absolument pas de la foi en Jésus-Christ. Ce qui fait que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans l'évangile de Jean, on peut en faire une interprétation plus large et dire « C'est Jésus qui est le chemin ». Mais non pas en tant que personne, parce que tout le monde n'a pas une connaissance de la personne de Jésus-Christ. Mais le chemin, c'est ce qu'il a dit, la parole qu'il a incarnée. Le chemin, c'est le pardon, le service, la paix, l'amour, la grâce. C'est ça, le chemin. C'est ce que Jésus-Christ a incarné, et il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre critère de vie que de vivre le pardon, la paix et l'amour. Je crois en cela. Et par conséquent, même celui qui n'aurait eu aucune culture chrétienne, mais qui vivrait dans son monde totalement païen, avec ses frères et ses sœurs de la générosité, du service et de l'amour, eh bien lui, il serait sauvé. Voilà quelque chose qui me plaît. Mais néanmoins, je me rends compte que je suis en train de retomber totalement dans une sorte de théologie des œuvres. Parce que du coup, on est sauvé si on fait preuve d'amour et si on est sympathique avec les autres. C'est la théologie des œuvres. Et je suis en train, malgré moi, de retomber dans un système finalement totalement rétributif et païen. Mais non, peut-être pas. Parce que là, il faut que je développe quelque chose. Justement, dans l'Évangile, il y a là une originalité considérable. C'est quand on parle du salut par la foi. La foi, ce n'est pas forcément de connaître Jésus, mais c'est le fait d'adhérer à quelque chose et d'y croire. Et que du coup, l'important, ce n'est peut-être pas tellement d'être capable de bonté dans ce monde, mais de croire dans la bonté. Et après, on fait ce qu'on peut. Et donc, je crois que c'est ça qui sauve. Ce n'est pas d'avoir réussi à faire des bonnes œuvres, mais finalement de vouloir mettre au centre de sa vie un système de valeurs qui est ordonné par l'attention à l'autre. Et donc, quand je crois de tout mon cœur que l'essentiel, le plus important, le plus fondamental de la vie, c'est le service, c'est la gratuité, c'est le pardon et l'amour, si je crois en cela, eh bien ma vie, elle est sauvée, elle est transcendée, elle est subsumée pour l'éternité. Maintenant, ce que je parviens à faire, ça, eh bien, je fais un peu comme je peux, et par conséquent, le salut serait pour moi la façon avec laquelle je m'accroche comme à un train qui passe. Il y a le train du salut qui passe et je dis « oui, j'y crois, c'est l'amour, le pardon, le service, c'est en ça que je crois et c'est là que je veux aller ». Peut-être que ce serait ça. Et nous aurions ainsi bien l'idée d'un salut immérité, mais néanmoins quand même conditionné. Maintenant, la question, c'est y a-t-il, dirais-je, un mode de fonctionnement particulier pour ce salut ? Et là, j'ai une théorie, enfin qui n'est d'ailleurs pas la mienne, mais dans laquelle on est obligé d'aller, c'est de croire que cette idée d'un salut binaire, dans laquelle certains seraient sauvés et d'autres ne seraient pas, est intenable. Ça me semble évident. Parce que je ne vois pas pourquoi l'humanité serait coupée en deux, et même s'il y avait un critère, quel qu'il soit, ce critère serait nécessairement injuste. Parce que personne n'est totalement bon ou totalement mauvais, on est tous des mélanges de ça. Et comment mettre la limite entre des gens qui sont finalement tous plus ou moins bons et plus ou moins mauvais? Et quel que soit le critère, ce qui est évidemment injuste, c'est que donc, quel que soit le critère que l'on trouverait pour le salut, le meilleur des perdus ressemblerait énormément au pire des sauvés. C'est-à-dire que les deux vont se toucher, et donc c'est impossible qu'on mette les uns d'un côté et les autres de l'autre. Les uns qui se réjouiraient avec les anges, avec la musique sur les nuages, et que pour un millième de milligramme en moins d'amour ou d'espérance, l'autre périrait dans des souffrances éternelles, dans des enfers intenables. C'est impossible. Et je crois donc que l'Église romaine a eu raison, d'une certaine manière, de prendre au sérieux ce problème et de vouloir trouver une solution. La solution ne me semble pas la bonne, et c'était néanmoins une solution. Cette solution, c'est le purgatoire. Pour dire, voyez, ce n'est pas binaire, il y a des très bons et il y a des très mauvais, mais pour la plupart, entre les deux, eh bien, on est au purgatoire. Cette idée était astucieuse. Après tous ces développements dans lesquels il faudrait payer par des souffrances personnelles pour racheter sa vie, ne me convient pas, mais l'idée était astucieuse, parce qu'elle permettait justement d'éviter cet aspect binaire du salut. Aujourd'hui, la méthode la plus moderne pour éviter cette solution duelle, c'est de dire que comme nous sommes tous des mélanges de bons et de mauvais, eh bien Dieu garde le meilleur de chacun et laisse pourrir le pire de chacun. Autrement dit, ce que Dieu sauve en chacun, c'est le meilleur de lui-même. On a ça dans ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 3, quand Paul dit « On se construit tous avec du bien et du mal, et le feu brûle ce qui ne vaut rien et laisse subsister ce qui vaut quelque chose. » Si quelqu'un n'a rien fait de bien, eh bien, pour lui, il est consumé, il reste rien, mais il est sauvé quand même, en quelque sorte. Autrement dit, Dieu sauve tout le monde, mais en ne gardant que le meilleur et le mauvais, il l'oublie. Cela me semble assez bon et je crois assez à cela. Une des conséquences qui déplaît beaucoup à certains de mes paroissiens, c'est qu'alors il y aurait des grands et des petits dans le royaume de Dieu. On ne serait pas tous à égalité dans le royaume de Dieu. Mais néanmoins, j'assume. Et je crois que cette idée est évangélique. Nous ne sommes pas tous à égalité dans le royaume de Dieu. Il y a des grands et des petits dans le royaume de Dieu, et Jésus n'arrête pas de le dire. Certains précèdent d'autres, certains sont à la droite de Christ, d'autres plus loin, il y a des grands et des petits. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cela dit, on est tous dans le royaume, mais plus ou moins grands, voilà. Cela me convient assez bien, mais reste encore un problème. Je reviens à mon point de départ. Y a-t-il des fautes disqualifiantes? Y a-t-il des fautes qui disqualifient? Y a-t-il des choses tellement graves que Dieu ne puisse pas les oublier? Si l'on prend Hitler justement avec ma thèse, il serait sauvé parce que peut-être qu'un jour dans sa vie, il a été gentil avec son chat quand il était petit. Peut-être qu'un jour, il a été aimable avec quelqu'un ou qu'il a embrassé un enfant, je ne sais pas, ou qu'il a été bon avec sa mère. Mais à ce moment-là, l'idée serait que Dieu ne garderait que le souvenir de ces bons moments de la vie d'Hitler. Mais est-ce que vraiment ces bons moments ne sont pas un jour ou l'autre balayés, détruits par toute l'horreur d'un système effroyable qui a valu tant de morts et tant de souffrances dont il a été responsable? Et Judas, de même, peut-être qu'il a été un très gentil petit garçon. Est-ce que le fait qu'il ait trahi Jésus ne disqualifie pas complètement cela? N'y a-t-il pas du mal que Dieu ne peut pas oublier, en quelque sorte? Parce que dire que le mal, c'est comme livrer des champs et qu'on le brûle, on le met à la poubelle et on n'en parle plus, c'est un peu facile. Est-ce que Dieu vraiment peut faire en sorte que le mal n'ait aucune consistance et dire simplement on n'en tient pas compte et on ne tiendrait compte que du positif et pas du négatif? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a quelques passages dans l'Évangile qui sont extrêmement violents, à propos de Judas en particulier, quand Jésus dit « Il eût mieux valu pour lui qu'il ne naisse pas ». C'est affreux ça, c'est terrible, vous vous rendez compte? Cela veut dire que pour lui il n'y a aucun espoir possible. Et quand il dit « Il faut bien qu'il y ait des problèmes dans ce monde, mais malheur à celui qui sera à l'occasion de chute à l'un de ses plus petits, il eût mieux valu pour lui qu'on lui mette une roue de moulin autour du cou et qu'on le jette dans la mer ». Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ferait trop de mal aux autres, à un moment donné, il ne mériterait même pas de vivre? Ces deux passages de l'Évangile sont extrêmement violents et pourraient, pris tel quel, pousser soit quelqu'un au suicide, en se disant « je crois que je fais trop de mal aux gens, parce que peut-être j'ai une perversion quelconque, il vaut mieux que je me suicide ». Ou bien même de justifier la peine de mort en disant « il vaut mieux qu'il ne vive pas parce que lui, il fait du mal aux autres, aux petits, aux innocents ». Ces passages sont très complexes. Eh bien, comme le temps passe, je reporte à plus tard la solution en ce qui les concerne. Et néanmoins, je vous invite à y réfléchir et je vais essayer d'y penser aussi et peut-être qu'ensemble nous pourrons reprendre une autre fois une réflexion qui permette d'intégrer ces passages en modérant l'ardeur effroyable qu'ils comportent et qui ne me semble quand même pas compatible avec le reste de l'Évangile. Et cela fait que je ne peux pas interpréter ces textes aussi brutalement que cela. Et donc, il doit bien y avoir là-dessous quelque chose. Mais j'en finirai en revenant à ce Calvin que j'ai rejeté un peu vite tout à l'heure. Parce que finalement, la prédestination, d'accord, c'est une vieille chose, c'est Saint-Augustin qui avait inventé ça au VIe siècle. Mais néanmoins, Calvin, quand il a repris cette thèse augustinienne, je crois, a eu un grand mérite. Et je crois qu'il a eu raison sur un point. Ça a été justement d'éviter ce genre de débat, d'éviter ce type de prédication que je vous ai imposée. La théologie de Calvin, c'était pour dire « tout cela est très compliqué, très compliqué ». Il y a simplement une chose à savoir, c'est que le salut, ça ne dépend pas de vous, mais qu'il vous est offert. Par conséquent, arrêtez de vous paniquer, de vous inquiéter, de vous stresser à savoir est-ce que j'ai fait assez de bien, est-ce que j'ai assez la foi, ou etc. Si Dieu veut vous sauver, il vous sauve. Si Dieu veut vous sauver, il vous sauve. Donc, ne vous préoccupez pas de votre salut, c'est Dieu qui en est l'auteur. Après, de savoir qui Dieu choisit, pourquoi, comment, ce n'est pas pour dire que c'est arbitraire. Calvin n'était pas pour l'arbitraire de Dieu, mais il disait « Dieu a ses idées à lui, il a ses idées, ses critères qui lui appartiennent, et vous, vous ne pouvez absolument pas comprendre, c'est trop compliqué. Donc simplement remettez-vous-en à Dieu et dites « cette question me dépasse, je ne suis pas chargé, moi, de refaire le procès de Nuremberg, et encore moins de jouer à Saint-Pierre jugeant ceux qui entrent ou pas dans le paradis ». Donc laissez Dieu lui-même juger les bons et les mauvais, juger Hitler, Mère Teresa ou les autres, et dites-vous simplement que cela appartient à Dieu et que cela ne vous appartient pas. Donc moi je n'y comprends rien, et ma foi même me fait dire, Dieu sait, et qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire que l'un ou l'autre soit sauvé? La seule chose qui vous importe, c'est que vous, vous soyez sauvés. Et ça, c'est le message fondamental aussi de Calvin. C'est de dire, il y a prédestination, mais le simple fait que vous soyez là à vous poser la question de votre salut ou à écouter ce que je dis là est la preuve que vous n'êtes pas coupé de Dieu et que donc vous êtes prédestiné au salut. Donc autrement dit, frères et sœurs, pour vous, le problème est réglé. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Et donc que votre vie soit simplement un champ d'action de grâce, que votre vie soit libre et joyeuse, abandonnez toute angoisse, toute crainte, toute peur de quoi que ce soit. Ne vous sentez coupable de rien, mais simplement dites-vous que vous êtes des enfants aimés, libérés, graciés et sauvés, et que votre vie soit simplement tout ce que vous pouvez pour mettre en conformité votre vie avec cette grâce qui vous est offerte. Donc vivez comme des enfants sauvés, graciés, pardonnés, pour que vous-même, autant que vous pourrez, vous sachiez donner de la grâce, du pardon, de l'amour et de la paix. Mais c'est Dieu qui initie. je dirais, ce cercle vertueux de l'amour, de la grâce, du pardon et de la paix. Parce que je suis persuadé que dans le fond, rien de bon ne peut sortir de ces questions oiseuses dans lesquelles je vous ai emporté. La seule qui nous importe, c'est celle de la grâce de Dieu. Et ça n'est même plus une question, c'est une certitude. Amen.